10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Bonjour, président Gérard Larcher.
Bonjour.
Il y a 5 ans, pratiquement jour pour jour, le 11 janvier, un sursaut national éphémère réunissait des millions de Français contre le terrorisme et pour la liberté d'expression. Aujourd'hui, l'esprit du 11 janvier est surtout une formule pour la presse. 5 ans plus tard, après 39 jours de grève des transports publics et de quelques fonctionnaires contre la réforme des retraites, l'esprit du 11 janvier 2020 aura été pour le pouvoir l'esprit du compromis avec les syndicats réformistes. Les plus durs, comme la CGT, préféreront encore cultiver l'esprit des barricades et de la forteresse pour quelques jours avant de siffler la fin du grand soir. En janvier 2020, Gérard Larcher, à la moitié du quinquennat Macron, vous êtes un mutant. On voit l'homme consensuel, avec l'esprit de synthèse, devenir un combattant, président du Sénat à droite, deuxième personnage de l'État, et en lice pour devenir le premier opposant du président de la République, alors qu'une grande partie de votre électorat, en fait, soutient la politique présentée en général par le gouvernement. LR s'apprête à conforter ses positions dans les villes en mars, mais contrôler les territoires est suffisant pour reconquérir le pouvoir. Vous nous direz comment résoudre cette équation dont l'une des inconnues eh bien, sera la personne qui représentera votre camp en 2022 dans 2 ans, c'est-à-dire en temps politique demain. Pour vous interroger, ce sera avec aujourd'hui donc Damien Fleurot de CNews, Nicolas Barré des Échos. Mais tout d'abord, sur les retraites, on écoute, on regarde.
L'opinion publique, elle est toujours favorable au mouvement. Jeudi, ça a été une grosse mobilisation. Il y a eu il y a les manifestations et les gens qui sont en grève, beaucoup de grévistes.
Gérard Larcher, on vient d'entendre Philippe Martinez dans le cortège de la manifestation parisienne. C'était hier. On le voit, il reste sur une position très dure. Que lui dites-vous au leader de la CGT ce matin?
D'abord, moi, j'ai une pensée pour l'esprit du 11 janvier, il y a 5 ans. Parce que, j'allais dire, malheureusement, j'en étais. Et c'est un moment qui nous a rassemblés, mais c'est un moment, en même temps, qui nous a interrogés, qui m'a conduit à rendre, quelques mois après, au président Hollande, un rapport qui s'appelle « La nation, un héritage en partage ».
Effectivement.
Je pense que cette idée de nation, on va la retrouver. Parce que quand on parle communauté nationale, quand on parle difficultés qu'on rencontre, eh bien, c'est un sujet majeur. Alors, bien sûr, 11 janvier, esprit de compromis. Est-ce que vous me permettez de répondre d'abord, pas simplement, Monsieur Martinez? Au fond, il y a une faute originelle. C'est qu'il y a 2 ans, on engage une réforme sur les retraites en décidant de ne pas parler d'un des éléments de l'équation, l'âge légal. Vous savez, il y a le niveau des cotisations.
Mais on reviendra sur cette faute originelle.
Il y a le niveau des pensions. Et aujourd'hui, après la décision dite de compromis, il n'y a plus de motif à la grève parce qu'il n'y a plus de réforme.
On va y revenir.
Mais que dites-vous justement au leader de la CGT?
Il n'y a plus de réforme. Il faut qu'il pense aussi à tous ces gens qui galèrent au quotidien. Il faut qu'il pense à l'économie. Et cette réalité-là, vraiment... J'allais dire, l'enjeu ne mérite plus ce grand blocage. Il va nous rester une réforme à points qui n'est même pas universelle. Premier sujet. Réforme à points, on est plutôt pour au Sénat. En 2010, nous l'avions dit. Une ignorance sur le financement. Et la conférence de financement va le définir. J'ai dit que c'était une bonne idée. Une chance pour le Sénat. Nous débattrons sans doute fin avril. Je le dis tout de suite... Il faudra qu'on nous dise les réalités du financement.
Alors, vous n'allez pas toujours dire tout de suite, Nicolas Barré.
Revenons juste à l'actualité de ce week-end. Donc, le Premier ministre a écrit aux organisations syndicales, aux partenaires sociaux, pour leur dire on retire provisoirement cette idée d'âge pivot.
Oui,
enfin,
c'est du provisoire qui risque de durer longtemps.
Bon, c'est une victoire d'une certaine façon pour la CFDT. En tout cas, c'est ce qu'elle.
Oui.
C'est comme ça qu'elle le voit, ou pour l'UNSA, ou pour la CFTC également. Est-ce que vous saluez malgré tout cet esprit de compromis du Premier ministre?
Que vous prenez en général le compromis?
C'est quand on est dans un coin du ring, il y a un moment, il faut bien sortir du ring. Or, le gouvernement était dans un coin du ring, la réalité, et qu'il a tenté de passer par-dessus les cordes du ring, parce qu'en fait, on n'est plus dans cette réalité-là aujourd'hui. Je le dis clairement, il va rester simplement une réforme à point d'un système qui ne sera même pas universel.
Mais vous saluez quand même cet esprit de compromis, cette volonté.
Par nature, je suis un homme de compromis, mais ça dépend. Le compromis n'est pas l'abandon. Et nous ne sommes pas loin de l'abandon.
Quels sont quand même les points positifs de cette réforme? Il n'y en a aucun pour vous?
Non. Le système par points. C'est un débat que nous avons eu il y a 9 ans au Sénat. Et ce débat que nous avons eu au Sénat nous avait amené à voter qu'en 2013, nous pouvions engager la mise en place de cette réforme par points. François Hollande a été élu entre-temps, il n'en a point voulu. Nous avons eu la réforme Touraine, qui est en fait une réforme d'allongement de la durée de cotisation. Mais je rappelle que jusque-là, les seuls gouvernements qui ont fait des vraies réformes des retraites, ils étaient des gouvernements de la droite et du centre.
Mais justement, Damien Fleurot.
Oui, alors est-ce que néanmoins, vous ne dites pas à Édouard Philippe, c'est un compromis, il faut avancer pas à pas pour sortir de cette crise. On voit, même si le nombre de manifestants est moins important, il demeure des blocages et des appels à la grève. Vous continuez à être sur une position de dire il vaudrait mieux un âge légal à 65 ans. Mais le pays serait totalement bloqué si cette mesure était prise demain.
Nous pensons qu'il faut dire la vérité aux Français. Pourquoi les Français sont passés de l'adhésion, il y a 2 ans et demi, aujourd'hui au rejet? Parce que, troisième volet de la réalité, il y a eu un formidable maquillage pendant 2 ans. Souvenez-vous du mois de juillet, on présente une réforme qui va être une réforme de l'âge d'équilibre, de l'âge pivot. On parle ensuite du grand-père, et pourquoi pas de l'arrière-grand-père. Et on revient à cette réalité. Au fond, on n'a pas dit la vérité aux Français. On n'a pas dit non plus la vérité aux partenaires sociaux. Pour avoir rencontré Laurent Berger au mois de décembre, nous nous rappelions des débats que nous avions eus en 2016
aujourd'hui, sur la réforme. Aujourd'hui, il salue le geste et l'avancée du Premier ministre.
Naturellement, puisqu'il est le gagnant.
Il est gagnant en même temps, et il va devoir aussi trouver un accord avec les partenaires sociaux pour pouvoir quand même imposer un système d'équilibre.
Je l'espère.
Un système peut-être de mesure
d'âge. Mais je ne voudrais pas vous décrire ce qui pourrait être l'accord. On tape dans le fond de réserve des retraites, 20 milliards. On dit 20 milliards, c'est énorme. Non, c'est 2 années de déficit. On transfère à partir de 2024 la CRDS, qui est faite pour la dette sociale, sur les retraites. On augmente les cotisations, donc on pèse sur la compétitivité des Français.
Ça,
le grand risque, il est d'ailleurs ce matin, chez un de vos confrères, dans un interview du secrétaire général de l'UNSA, tout est écrit. Je voudrais pas que ça soit ça la conclusion d'une conférence de financement. Il faut qu'on regarde les problèmes en face. Ce pays a 100 milliards de déficit par an. Nous allons emprunter 205 milliards. On voudrait me faire croire que c'est une réforme de droite? Non.
Ça, qu'est-ce que vous allez faire au Sénat?
Les réformes de droite ont toujours été des réformes pour l'équilibre financier.
Je corrige juste un point. Édouard Philippe a quand même précisé dans son courrier aux partenaires sociaux qu'il n'y aurait pas de hausse du coût du travail à l'issue de cette conférence.
Je n'aurais pas la cruauté de vous rappeler. Alors, le discours devant le CES, les propos des ministres. Souvenez-vous, décembre, muscle, on ne va pas céder. Non, passe arabe. Eh bien, passe arabe totalement.
Alors, Nicolas Barret, toujours, sur vos contradictions.
Sur le fond de ce que vous, chez LR, vous proposez, on a un tout petit peu de mal à vous suivre, mais vous allez sûrement nous éclairer, puisque vous dites âge légal qui passerait à 65 ans au bout de 12 ans. Bon, et puis, de l'autre côté, vous voulez créer un système universel de pénibilité hyper généreux. La CGT en a rêvé, LR le propose. C'est avec un système qui permet, vous avez 5 ans de travail pénible, vous gagnez une année de retraite, etc. Donc c'est un système qui est beaucoup plus généreux que le système actuel. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en porte-à-faux avec votre électorat là-dessus?
C'est la CFDT d'abord, le sujet de la pénibilité. Oui. Pardonnez-moi, j'étais ministre du Travail.
C'est la CFDT,
et
d'accord.
Ce
enfin,
sujet,
tous les syndicats.
Mais
tous les syndicats
achètent. C'est un sujet majeur, le sujet de la pénibilité. Le sujet de la pénibilité, est-ce que c'est l'ensemble d'un métier ou est-ce que c'est un certain nombre de fonctions? Quand je lis qu'un maçon, fonction et métier difficile, ne peut pas aujourd'hui bénéficier, eh bien je me dis que nous avons à débattre et à dialoguer. Problème des carrières longues, problème des carrières hachées. Ces réalités-là, ce sont des vrais sujets de dialogue social. Un mouvement politique comme LR fait des propositions aujourd'hui, ça ne que des propositions sur la table, mais c'est aux partenaires sociaux de décider.
Et puis, vous n'êtes pas en porte-à-faux avec votre ministre.
Je ne me sens jamais en porte-à-faux parce que je suis un homme libre. Et oui, le sujet qui n'est pas du tout abordé par personne, c'est tout le travail de prévention au travail. Le travail de prévention et de santé au travail, c'est un sujet majeur sur lequel nous devons travailler parce que constater la pénibilité, on pourrait éviter la pénibilité.
Enfin, on a comme l'impression que l'important pour vous, c'est cette mesure d'âge, c'est le système de l'équilibre financier. Au fond, vous le disiez au début, vous étiez pour cette réforme à points. Et cette fibre de la droite sociale, comment vous arrivez à la faire transparaître ?
Aucun problème sur ce sujet. Parce que moi, je ne veux pas tromper les générations futures. Ceux qui sont nés après 75, quel équilibre ils auront pour leur retraite ? Je suis pour sauver le système par répartition et ne pas le conduire à l'équilibre. C'est à terme nous conduire à un système par capitalisation qui sera un système où les plus faibles auront moins de pensions de retraite, cotiseront plus. C'est un système totalement inégalitaire qui, lui, sera la vraie rupture avec le pacte social que nous avons noué avec le pays après la Deuxième Guerre mondiale.
Alors, on va voir comment tout cela est cohérent auprès de votre électorat. A tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Michaël Darmon.
Et surtout notre invité, le président, donc Gérard Larcher, président du Sénat. La droite est-elle maladroite avec ses électeurs ? Cette semaine, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, recevait donc une délégation d'avocats, l'occasion de parler donc de la méthode de l'exécutif. On écoute, on regarde.
Il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de dialogue, on voit bien. S'ils viennent voir un président de région, s'ils se tournent vers les élus, parce qu'ils ne sont pas entendus.
Gérard Larcher, votre électorat a, semble-t-il, un peu de mal à vous suivre sur cette question des retraites, puisqu'un sondage Elab la semaine dernière montrait que les trois quarts des sympathisants de droite soutiennent la réforme des retraites annoncée par le Premier ministre. Alors est-ce que Emmanuel Macron a, sur ce sujet en tout cas, définitivement siphonné votre électorat ?
Il soutenait peut-être la réforme des retraites quand il y avait encore l'article 56 bis dans le projet de loi sur l'âge d'équilibre à 64 ans. Pardonnez-moi.
Que dit
je suis un observateur un peu attentif de la loi et j'ai quelques collègues qui connaissent particulièrement
alors,
bien.
Alors, qu'est-ce que vous avez pointé ?
Le seul numéro bis, ça veut dire qu'on était dans un troisième maquillage. L'exécutif savait bien qu'il allait retirer cet article. Comme ça, il n'a même pas un problème de reclassification.
Ah, vous dites comme Marine Le Pen, alors.
L'article bis était prêt à sauter.
Marine Le Pen aussi, depuis le début, la même chose. Vous êtes d'accord avec
elle ? Je n'ai pas pris chez Marine Le Pen mes références, mais tout simplement dans mon expérience de parlementaire. Quand j'ai vu ce numéro bis, je lui ai dit, toi, ton avenir n'est pas garanti, tu vois.
Bon, et alors, les trois quarts des électeurs qui soutenaient la réforme, des électeurs de droite qui soutenaient la réforme, pensaient qu'ils vont basculer, là, comme ça, parce
que n'en sais rien, mais en tous les cas, ils soutenaient une réforme avec au moins l'article 56 bis. Ce que dit Xavier Bertrand a raison. On a un vrai sujet de relation entre l'exécutif, le haut, et ça nous concerne aussi les parlementaires, les citoyens. À force de ne plus parler au corps intermédiaire, à force
y a pas eu de
d'avoir
concertation.
Longtemps méprisé les élus,
y a pas
jusqu'à
eu
une affaire de gilets jaunes, l'exécutif s'est coupé. Et la réalité, c'est qu'il faut aujourd'hui inverser la verticalité. Mais si les avocats, si les sapeurs-pompiers viennent nous voir sur le terrain, c'est au fond qu'ils ont le sentiment que là-haut, au fond, ça...
Oui, bah alors écoutez,
ça les intéresse
concerté,
pas.
Jean-Paul Delevoye n'a pas concerté depuis le début du quinquennat sur ce sujet de la réforme des retraites.
On a vu le résultat, c'est assez...
Sa sortie, c'est peut-être. Assez...
Non, je ne parle pas de la sortie, pardonnez-moi, moi j'ai le respect pour les hommes, et puis attendons. Le vrai sujet, c'est que se concerter pour en arriver là, si ça s'appelle de la concertation, je ne sais pas ce que veut dire un dialogue social.
Écoutez, la rupture entre l'exécutif, le haut, le bas que vous venez de décrire, on pourrait parfaitement l'appliquer à ce qui se passe entre la droite et le terrain et vos électeurs. Qu'est-ce que vous leur dites au fond à vos électeurs qui disent « on soutient cette réforme », vous vous trompez ? On sent même une forme de gêne dans votre parti. À part Éric Woerth et vous, personne ne parle de ce sujet. Qu'est-ce que vous leur dites à vos électeurs ? Vous vous trompez ?
La vérité, si vous voulez garder une industrie, une économie compétitive, est-ce qu'on peut jouer sur le montant des cotisations ? Réponse, non. Si vous voulez qu'on conserve des montants de pension qui soient acceptables, et nous le souhaitons, nous ne savons pas faire. Autrement,
mais pourquoi
moment,
vos électeurs soutiennent cette réforme ?
Que
ça, vous
de
répondez
jouer
pas
l'âge.
Ça.
Mais ils ne peuvent plus soutenir une réforme où il n'y a plus d'âge pivot. Pardonnez-moi, depuis hier après-midi, je ne vois pas comment nos électeurs peuvent soutenir une réforme qui a oublié la réalité du paramètre de l'âge, ce qui n'exclut pas du tout.
C'est pas un vœu pieux, ça. Vous vous dites, ça y est, vous
dites, ils soutiennent
plus.
C'est la vérité.
Vous avez décidé.
Le gouvernement,
les
négociateurs ont menti pendant deux ans, n'ont pas dit la vérité, ils n'ont pas parlé de l'âge légal. Ils l'ont maquillé, ils l'ont contourné. J'allais dire, au moins hier, les masques sont tombés, ce qui, pour un maquillage, n'est pas si mal que ça.
Vous dites plus de mesures d'âge, mais dans sa lettre, Édouard Philippe, vous l'avez vu, dit bien qu'il y aura un âge d'équilibre qui sera modulé.
Écoutez, comme je reprends les déclarations de décembre, et vraiment pas de cruauté vis-à-vis des ministres qui nous avaient montré leurs muscles, on va attendre, c'est du provisoire qui risque de durer longtemps, moi je souhaite. Je souhaite vraiment, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'est pas question que le Parlement, à mes yeux, puisse débattre sans une vraie étude d'impact, qu'au moment du débat, notamment au Sénat, à la fin du mois d'avril, nous ayons les conclusions de la conférence des financements. Est-ce qu'on peut...
Elle aura déjà commencé à travailler.
Est-ce qu'on peut, mais sérieusement, parler de 321 milliards, 14% du PIB, 14% du PIB, sans savoir la réalité des chiffres. Je pense qu'il y a minimum, pas simplement de respect du Parlement, mais au travers du Parlement, de respect des Français. On est sur un sujet majeur. Voilà pourquoi ma proposition, j'espère en partie qu'elle sera appliquée. Je le dis clairement au Sénat, nous serons extrêmement attentifs, extrêmement exigeants, et nous attendrons de voir la fin de
c'est
la conférence
en
de financement.
Pour tous les textes de loi. En revanche, en attendant...
Oh, attendez, les études d'impact dans notre pays sont en général indigentes.
En attendant, il y a une tentation, peut-être une réflexion en ce moment au sommet de l'État, de dire, au fond, si on ne fait pas adopter cette loi avec le 49-3 à l'Assemblée, c'est-à-dire sans débat, pour éviter un feuilleton parlementaire. Qu'est-ce que vous entendez ça?
Écoutez, d'abord, il n'y a pas de 49-3 au Sénat, donc le,
non, pas au Sénat,
le débat,
le Parlement.
Le débat aura lieu au Sénat. Je pense que c'est un débat, il faut qu'on arrête sur ce sujet de poursuivre dans la tromperie des Français. Il faut un débat clair, transparent. Il peut être difficile, mais il faut, dans une démocratie qui est aussi parlementaire, respecter le Parlement. Je pense que le 49-3, c'est une arme qui peut être utilisée. Je rappelle que certains ne l'ont jamais utilisée, pourtant il y avait des choses difficiles. Nicolas Sarkozy ne l'a jamais utilisée. Je parle sous le regard d'un ancien ministre des Relations avec le Parlement.
Il disait aussi que quand il y a une guerre dans le pays, on ne le voit plus. Damien Fleurot.
Gérard Larcher, les élections municipales au mois de mars prochain et selon les sondages, pas forcément de dégagisme vis-à-vis des sortants. La droite est bien implantée dans les territoires. Elle va pouvoir dire on les tient. Finalement, ce sera vous le gagnant de ce scrutin?
Ce sont les maires.
Mais vous êtes
et
leur
les conseillers municipaux qui seront les gagnants parce qu'au fond, les seuls à un moment de défiance vis-à-vis des politiques, des élites, des médias, les seuls qui aient la confiance majoritaire des Français, ce sont les maires adjoints et les conseillers municipaux, parce qu'ils sont dans la proximité. Moi, je pense que c'est l'éloge de la proximité et la reconnaissance de la proximité. Et je le dis parce que les sénateurs, nous vivons au travers de ces 550 000 élus locaux. Et naturellement, la majorité se situant au travers de collègues de sensibilité de droite, du centre modéré, eh bien, je pense que c'est vers cela qu'on se dirige. Parce que la proximité, c'est pour nous d'ailleurs, et c'est le sens des conférences que j'ai menées sur le territoire, ce que j'ai appelé France Territoire après notre échec à l'élection européenne, d'aller à la rencontre du pays, car je pense que c'est du territoire que viendra le renouveau de notre pays.
Alors, il y a la belle histoire et la réalité.
Dans la capitale, Anne Hidalgo vient d'annoncer, là, dans Le Parisien, qu'elle serait candidate à Paris. Elle veut notamment piétonniser le centre de Paris. Comment est-ce que l'élu de banlieue parisienne que vous êtes voit cela? Est-ce qu'il y aura une séparation
Anne
entre
Hidalgo,
Paris et le reste de la région
parisienne? Anne Hidalgo, comme d'autres, vont présenter un projet aux citoyens. C'est vrai dans un modeste village comme c'est vrai à Paris. Je pense que Paris ne peut pas ignorer l'ensemble de la région Île-de-France.
Et elle l'ignore.
Et que Paris doit rentrer dans un vrai dialogue. Et que le vrai dialogue doit se faire autour de la région Île-de-France, de la région capitale. Parce que la question des mobilités, c'est pas chacun pour soi, c'est chacun mais ensemble.
Pour l'instant, il n'y a pas de dialogue, vous dites?
En tous les cas, ça ne s'est pas vu jusque-là. Comment... La qualité du dialogue. Quand vous habitez Rambouillet, pardonnez-moi
mais
de vous dire...
Mais par ces mesures sur
attendez,
la...
Quand vous habitez Rambouillet... Que j'habite au quotidien, puisque je n'habite pas le Sénat. Quand j'habite Rambouillet, je peux vous dire qu'on ne peut pas parler de mobilité à partir de Rambouillet sans que Paris soit à l'écoute des problèmes des Yvelines, du Val d'Oise, de la Seine-et-Marne et d'un certain nombre
on
de départements. Je pense notamment aussi à l'Essonne, au département de Grande-Couronne. Il faut que nous inventions ce dialogue. C'est d'ailleurs un sujet, et un sujet qui, je le rappelle en termes de compétences, puisque nous aurons un débat sur la décentralisation, à mon avis, doit être porté par les régions.
On va effectivement y revenir. Tout d'abord, dans quelle mesure la droite parisienne peut arriver, avec sa candidate Rachida Dati, à déstabiliser Anne Hidalgo ?
D'abord en se rassemblant, en étant unis, en faisant confiance aussi aux maires sortants
de la droite et du centre,
de la droite et du centre, qui ont bien géré leurs arrondissements
et
qui ont la confiance. Et à partir de ça,
vous pensez
peut se dégager une majorité.
Au 17e arrondissement,
je pense à tous les arrondissements. Nous avons des sortants qui ont bien travaillé. Vous savez que c'est ma position, et elle rejoint la position que j'ai dans l'ensemble du pays de cette confiance dans les maires. Et notamment dans les maires qui ont bien travaillé.
Effectivement, mais en même temps, si on regarde la cohérence politique, vous avez des maires de droite, on le voit sur l'ensemble du territoire, on le voit dans les départements que vous connaissez bien, soutenus à la fois par La République En Marche et par LR, je pense à Saint-Germain avec Arnaud Péricard, à Rueil-Malmaison avec Patrick Ollier, vous connaissez bien ces endroits. Dans ces départements historiquement de droite, la REM siphonne la droite.
Michael Darmon, je pourrais vous raconter comment j'ai été élu en 83. Tout le monde a identifié à l'époque, ça s'appelait le RPR.
Il n'y avait pas de macronisme
à l'époque.
L'ancêtre
des Républicains. Mon premier adjoint était radical de gauche. Ma deuxième adjoint s'appelait Christine Boutin.
Vous y êtes déjà venu en marche.
Ils n'ont pas eu le sentiment que c'était ni l'UDF ni les radicaux
vous
de gauche qui avaient gagné.
Vous étiez en marche avant l'heure alors, monsieur.
Je n'étais pas en marche. J'étais simplement comme la plupart des maires de ce pays. Porteur d'un projet qui rassemble des hommes et des femmes qui portent le projet de la commune, qui sont en capacité de dépasser un certain nombre de clivages. Mais on a clairement dit, c'est Larcher, RPR,
oui,
qui a gagné à Rambouillet.
Ses maires et ses conseillers, ils feront ensuite une majorité peut-être au Sénat.
Eh oui.
Et une majorité en
ça
marche.
Ça ne peut pas vous déstabiliser
avant,
un peu,
avant
ça,
qu'elle
quand même.
Soit en marche, il faudra qu'elle monte un certain nombre de marches de l'escalier.
D'accord, vous parliez.
Et moi, je fais confiance aux élus.
L'entrisme de La République En Marche dans ce scrutin municipal, ça ne vous inquiète pas.
Ce n'est pas illogique.
Et dans les territoires
ils ont
de droite.
Une majorité de députés. Ils sont présents, c'est une réalité politique. Je le vois. Vous savez, hier, vous parliez de Saint-Germain-en-Laye. C'est moi qui ai clôturé les vœux du maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard. Vous pensez que s'il n'avait pas eu confiance en moi-même, il m'aurait demandé de clôturer ses vœux. Et l'oratrice précédente, c'était Valérie Pécresse, dont je pense que l'État s'est clair dans ses relations, notamment avec La République En Marche.
Alors justement, ça, on voit bien que parfois il y a des tentatives de déstabiliser, de reprendre la région, en fait, hein, pour La République En Marche, notamment à travers un procédé de fusion entre deux départements, ces deux gros départements, qui pourraient changer la physionomie de la région. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est un projet qui est porté par les deux conseils départementaux, des Yvelines et des Hauts-de-Seine.
Et encouragé par l'État, récemment.
Encouragé, encore faudra-t-il que l'État prenne le décret. Tout dépend de l'État. Mais le vrai sujet, c'est la métropole, et je pense que la métropole, ça doit être la région. Je suis extrêmement clair sur le sujet.
On continuera à parler avec Gérard Larcher. On se retrouve dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Michaël Darmon.
Et on continue avec le président Gérard Larcher, président LR du Sénat, sur les enjeux des élections municipales. Le Rassemblement National peut-il, selon vous, gagner des villes de plus de 100 000 habitants? Il y a un symbole que tout le monde va regarder pendant cette campagne, donc sur Perpignan. Est-ce que Perpignan, selon vous, peut, avec Louis Alliot, basculer au RN?
En tous les cas, le Rassemblement National, si nous réduisons la vie politique française à un système binaire entre La République En Marche et le Rassemblement National, vous verrez qu'il pourra gagner et qu'à un moment, nous risquons d'avoir une inversion d'image, y compris dans les élections nationales. Et ça, c'est d'ailleurs le sens de mon engagement pour le renouveau des Républicains et pour l'alliance avec nos amis du centre.
Alors, tout d'un
c'est
coup,
vraiment mon obsession politique.
Tout d'un coup, les élections municipales deviennent un scrutin très politique.
Non,
c'est
dans
plus
un certain nombre
terrain,
de villes.
Les projets,
dans un certain nombre de villes, pas du tout. Il faut répondre aux problèmes des gens. Je suis inquiet, vous parlez de Perpignan, mais par exemple, dans le bassin minier, sur lequel Xavier Bertrand fait un travail assez extraordinaire, nous avons un risque majeur qu'un certain nombre de villes, par désespérance, bascule au Rassemblement national. C'est donc une espérance qu'il faut ouvrir pour ces territoires. Quand Carole Delga dit qu'elle craint que plusieurs dizaines
de villes
de l'Occitanie ne tombent entre les mains du Rassemblement National. Voilà pourquoi j'ai milité pour que notre famille politique soit extrêmement claire. Et nous l'avons été particulièrement dans l'Hérault il y a peu de temps.
Sur un scrutin très politisé, comme vous venez finalement de le reconnaître, Damien Flore.
Très politisé à quelques endroits.
Gérard Larcher, vous parlez de l'Hérault à 7, la liste soutenue par le Rassemblement National, elle sera conduite par Sébastien Pacul. Alors, on va dire qui il est, ancien patron de la Fédération Les Républicains du département. C'est aussi ça qui participe peut-être à brouiller...
Il ne fait plus partie des Républicains.
Oui, mais alors comment est-ce que vous expliquez que cette personnalité, ce cadre de votre parti, eh bien, fasse cette union des droites?
Il faut lui poser la question, je pense qu'il faut être extrêmement clair. Pour moi, il y a une barrière hermétique.
Mais c'est un peu votre échec, vous, le parti Les Républicains. Vous avez laissé partir Thierry Mariani, par exemple, qui réactive son courant de la droite populaire.
Parce qu'il a quitté les valeurs qui étaient les nôtres. Aux Républicains, nous avons un certain nombre de valeurs issues des familles qui nous composent, les familles démocrates chrétiennes, les familles du centre, les familles radicales, la famille gaulliste, la famille de la droite libérale. Et pardonnez-moi, nous n'avons rien en commun avec le Rassemblement National. Si certains de ceux qui étaient dans la famille veulent la quitter, eh bien, ils la quittent, mais ça veut dire qu'ils la quittent au nom de valeurs qui ne sont pas les nôtres.
Avec une exclusion automatique.
Bien sûr. Mais le travail, ce n'est pas d'exclure, ils s'excluent d'eux-mêmes. Et je crois que l'importance aujourd'hui, et c'est le travail que Christian Jacob a entamé, c'est de travailler autour d'un projet. Et je dois dire qu'autour de ce projet, nous construirons un certain nombre de propositions qui s'inspireront beaucoup de l'expérience territoriale et locale.
Nicolas Barré. Sur les projets, le président de la République a annoncé ou promis des mesures pour lutter contre le communautarisme. De votre côté, qu'est-ce que vous attendez comme type de mesure ou qu'est-ce que vous proposez dans ce domaine du communautarisme? On voit bien que ça préoccupe tous nos compatriotes.
D'abord, d'appliquer pleinement la loi de 1905. Et j'ai fait un travail, vous le savez, avec Marcel Gaucher, de réflexion sur ce sujet. Peut-être de se rappeler les principes d'Aristide Briand et de se les rappeler là. La loi doit protéger la foi tant que la foi n'entend pas dicter la loi. Il n'y a donc qu'une seule loi, la loi de la République, qu'une seule communauté, qui est la communauté nationale. À partir de ce principe-là, nous pouvons retrouver ce qui doit être les vrais équilibres pour notre pays,
mais
pour la République.
Avant de revenir précisément sur les questions de la laïcité, concernant la question de Nicolas Barré sur les listes dites communautaristes, dites communautaires, sur le prochain scrutin, quelles sont les mesures, au fond, que vous attendez de la part du président de la République? Il y a déjà une circulaire qui a été prise par le ministère de l'Intérieur. Pourquoi faut-il encore, selon vous, des mesures? Faut-il encore des mesures au niveau présidentiel?
Le sujet dépasse les listes à caractère communautaire, sujet sur lequel les élus qui partagent les valeurs de la République devront être extrêmement attentifs. Nous avons un vrai sujet, parce que la lutte contre le communautarisme, et appelons les choses comme elles doivent être appelées, notamment contre l'islamisme radical, va de pair avec la liberté de culte que nous devons accorder aux musulmans comme aux autres religions. À partir de ce moment-là, il faut le courage, mais nous l'avons écrit, il y a eu un certain nombre de rapports sénatoriaux extrêmement clairs. Il faut que, par exemple, mettre fin à la présence d'imams détachés pour que nous sortions de l'islam consulaire et que nous n'arrivions pas à la rotation que nous avions, y compris au Conseil français du culte musulman, qui est un organisme indispensable mais qu'il va falloir réformer. Il va devoir puiser dans les départements sa légitimité, faire plus de place aux hommes et aux femmes. Eh bien, je le dis extrêmement clairement, mettre fin à la progressivement à ces imams détachés, c'est former en France ceux qui auront à prêcher et qui devront prêcher autour des valeurs de la République.
C'est une question...
Nous l'avons connu avec d'autres cultes au début du XXe siècle.
C'est une question d'actualité. Le 19 janvier, il y a l'élection d'une nouvelle présidence donc au CFCM. Le recteur Boubaker a démissionné. Mais pourtant, la présence de cet islam consulaire, de cet islam de l'étranger, reste encore très influente apparemment. Donc, qu'est-ce que vous dites là aujourd'hui? Il va falloir réorganiser.
Bien
qui
sûr,
peut le faire?
Mais c'est une demande très claire que j'ai faite et sur laquelle le Premier ministre vient d'ailleurs de me répondre. Réorganiser, ça dépend de l'État. Et il faut qu'on arrête d'en parler, il faut qu'on agisse. Or, depuis 2 ans, on a cessé d'en parler, on n'a jamais agi. Nous avons déjà un ensemble de textes. Quand on ferme une mosquée à Sartrouville ou à Équevilly dans mon département, on la ferme sur la base de la loi et d'une loi qu'il faut appliquer, j'allais dire, sans faiblesse.
Nicolas Barré.
Le président de la République vient d'évoquer l'idée d'un référendum sur le climat à l'occasion de cette conférence. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe, conférence qui s'est tenue avec les citoyens?
D'abord, le gaulliste que je suis n'est pas hostile par principe au référendum. On va attendre de savoir quelle est la question.
Mais alors, par exemple, si c'est
sur quel sujet?
Mais par exemple, si c'est sur la taxe carbone, la droite et la gauche avaient voté pour l'augmentation de la taxe carbone, on s'en souvient, il y a quelques années, sous la présidence précédente. Et puis finalement, l'affaire des Gilets jaunes a fait qu'on a abandonné toute cette trajectoire. Bon,
un sujet comme celui-là... C'est pas tout à fait l'affaire des Gilets jaunes, c'est Ségolène Royal qui d'abord a abdiqué en rase route. Regardez, il y a d'ailleurs autant de monuments qui sont des portiques en mémoire de cet abandon.
Oui, oui,
il y a même des ex-votos, vous voyez, qui nous ont coûté un certain nombre de centaines de millions.
Oui,
le sujet des Gilets jaunes, c'est autre chose. Le Sénat avait mis en garde.
Ouais.
C'est l'idée, de manière pluriannuelle, de taxer des carburants, et notamment en direction de personnes modestes qui avaient besoin de leur véhicule pour se déplacer. C'est ça la réalité.
Mais imaginons un référendum sur la taxe carbone, sur la nécessité de l'augmenter, par exemple. Est-ce que ça vous paraîtrait une bonne idée?
Écoutez, moi je n'imagine rien tant que je n'ai pas vu la question et la conclusion de la conférence citoyenne. C'est mon principe de base.
Vous êtes optimiste sur cette conférence citoyenne? Vous pensez qu'elle peut aboutir à des...
J'espère.
Qui fasse consensus.
J'espère que la conclusion, c'est pas comme l'article 56 bis est déjà écrite avant qu'elle n'ait conclu. Je pense, et nous le verrons, parce que nous mettons en place à partir de la semaine prochaine le droit de pétition au Sénat, et donc la capacité des citoyens à nous interpeller, à nous interroger. Moi, je suis ouvert. En tous les cas, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet qui est posé par notamment le réchauffement climatique. Je crois que les climato-sceptiques aujourd'hui sont en train de s'effacer. Sujet qui est posé à notre pays, mais sujet qui est posé au monde. Quand je vois ce qui se passe en Australie, celui des gouvernements qui avaient fait du charbon l'alpha et l'oméga, mais en même temps des ultras de la protection de la biodiversité qui ont interdit notamment de gérer le bush. C'est comme si dans le département du Var, on avait interdit les pare-feux il y a 25 ans.
Vous
je crois qu'il faut trouver des équilibres.
Vous demandez à la droite de se saisir un peu plus de ces sujets.
Je pense qu'il faut
pas assez,
oui,
selon vous.
Pardonnez-moi, la droite et le centre sur le territoire. Dans les communes, je peux vous dire qu'ils s'en emparent vraiment, qu'ils n'ont pas besoin de faire d'immenses discours. Ils font convention citoyenne tous les jours avec les habitants des communes sur ce sujet. Parce que sans les citoyens, on ne réussira pas à changer d'attitude vis-à-vis notamment de l'environnement et du climat.
Depuis le début de cette émission, on vous entend assez dur sur quand même le président Macron, avec lequel vous étiez quand même plus au fond en phase, plus indulgent apparemment au début du quinquennat. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi vous durcissez comme ça avec le temps contre lui?
Mais je veux dire aussi à mes compatriotes qu'on ne peut pas dire que le président Macron mènerait une politique de la droite et du centre. La réalité, c'est qu'en 2020, jamais nous aurons eu un budget avec autant de déficit, 100 milliards. Nous n'avons rien réduit de la dépense publique alors que cela faisait partie de ses engagements. Nous allons emprunter 205 milliards dopés que nous sommes, j'espère que ce n'est pas une forme d'hallucinogène, avec la faiblesse des taux d'intérêt. En fait, nous n'avons pas modernisé. Voilà pourquoi je prône cette nouvelle génération de décentralisation, c'est-à-dire un vrai changement de la relation entre l'État et les territoires.
Mesures de pouvoir d'achat, toutes ces mesures qui étaient préconisées depuis longtemps par vous, même lors des derniers mandats, ça n'a aucun effet.
Attendez, nous avons voté 76% des textes au Sénat lors de la dernière année législative. C'est dire que nous ne sommes pas dans une attitude d'anti-pouvoir. Nous sommes un contre-pouvoir. C'est d'ailleurs un excellent livre paru il y a quelques semaines.
Donc il n'y a pas de cassure.
Dont je connais l'auteur pourriez lire avec intérêt.
On a compris, on l'a lu
mais,
d'ailleurs.
Mais en tant que contre-pouvoir, nous disons qu'il y a eu des choses
qui ont été bien faites.
Mais aujourd'hui, au fond, le président de la République, il a une forme de rupture de confiance avec une partie du pays.
Et avec vous-même apparemment, mais vous ne risquez pas de perdre cette image d'homme de synthèse, de consensus que vous avez depuis le début en justement vous clivant ainsi?
Non, parce que je dois dire aussi la vérité aux Français. Être un homme de synthèse, c'est pas un homme de l'à peu près où on n'en parlera pas. Je pense qu'il faut parler de tous les sujets. Je pense que le président de la République, il a une responsabilité d'être le père de la nation. Pour moi, il est légitime. Simplement, il y a une assemblée qui lui dit très majoritairement, d'ailleurs, monsieur le président, attention sur un certain nombre de sujets. Nous lui avons dit lors de la loi de finances. Nous lui avons dit sur un certain nombre, par exemple, sur les sujets de société. Nous sommes aujourd'hui en train d'en débattre sereinement et tranquillement, sans clivage partisans,
GPA,
mais nous disons nous devons, le président doit rassembler les Français. Jamais je n'ai vu ce pays aussi divisé, aussi fracturé. Et moi, j'ai envie plutôt d'être un réducteur de fracture qu'un accélérateur de fracture.
Et bien, sur les envies de Gérard Larcher, on continue dans quelques instants. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et on retrouve le président Larcher et la suite donc des enjeux pour la droite. 2022, c'est demain. Petit séisme cette semaine dans votre famille politique. Le sénateur LR François Baroin passe en tête des personnalités de la droite et pour la première fois dépasse Nicolas Sarkozy. On le voit dans le baromètre Kantar pour le Figaro Magazine de janvier 2020 en progression de 17 points. Il peut mettre tout le monde d'accord, François Baroin ?
D'abord, François Baroin, c'est le président des maires de France. C'est le maire de Troyes. Il a une grande expérience. Il a été député puis sénateur. Mais je connais bien François Baroin. Il prendra le moment venu sa décision. Mais capitalisons d'abord sur le président des maires de France à moins de 2 mois et demi du deuxième tour de l'élection municipale.
Mais pourquoi pensez-vous justement qu'il réussit à gagner plus de soutien au sein de votre famille politique, François Baroin?
Il a d'abord réussi très bien le congrès des maires de France, ce qui démontre que ce qui se passe dans les collectivités territoriales est ressenti par les citoyens. Et ça nous renvoie, nous qui sommes élus au suffrage universel indirect, au lien très fort que nous avons par les élus municipaux avec les citoyens.
Alors la méthode, on la connaît. D'abord la belle histoire et après les réalités. Damien Fleurot.
Oui, en 2022, comment est-ce que votre famille politique se choisit son chef, son leader, son candidat pour la présidentielle? Par une primaire? Christian Jacob, a priori, ne le souhaite pas.
En tous les cas, je pense qu'il faut une méthode de départage, car nous avons la chance d'avoir plus de talents. De talents disponibles. Tout à l'heure, on entendait Xavier Bertrand, il y a Valérie Pécresse, il y a Bruno Retailleau, et il y a d'autres.
Et personnellement, je pense
qu'il faut une méthode de départage.
Et que cette méthode, quelle est-elle?
Écoutez, on va essayer d'en parler, d'y réfléchir. Sagement, Christian Jacob a dit qu'on prenait le temps sur ce sujet. Je pense qu'il faut une méthode de départage qui tire les leçons de la primaire que nous avons vécue, mais dont l'échec n'était pas contenu dans la méthode de la primaire, mais dans les suites. Et peut-être une insuffisance dans nos statuts de savoir en cas de crise, j'en sais quelque chose, comment on tente de sortir de la crise. J'ai été un des acteurs d'une tentative
oui,
dont
quand
le
même,
Gérard succès Larcher, fut modéré.
Gérard Larcher, quand même, vous avez trouvé ce mot de départage formidable.
Oui. C'est un mot de notaire.
Mais c'est pour ne pas dire primaire. C'est parce que vous ne voulez pas dire le mot primaire. Pourquoi vous ne le dites pas? Vous voulez des primaires?
Je veux une méthode de départage, je pense qu'il faut partir de la primaire et voir comment nous l'adaptons. Mais pardonnez-moi la différence, je n'écris pas d'article 56 bis sur le sujet pour le faire sauter. J'ai envie qu'on trouve une méthode de départage, qu'on y travaille, parce que vraiment l'intérêt de notre pays dépasse l'intérêt de ma seule famille politique. Qu'on ne se retrouve pas à l'élection présidentielle, le soir du premier tour, à n'avoir pour choix que le président de la République et le Rassemblement national. Parce que je pense que notre démocratie aurait tout à fait intérêt à ce qu'il y ait d'autres choix. C'est ce à quoi je vais travailler.
Alors, lorsque vous avez fait cette liste, vous avez montré qu'effectivement, il y a des potentialités, des richesses, des personnalités. Et vous?
Écoutez-moi.
Certains le disent, hein, c'est pas uniquement des questions.
Écoutez, j'ai déjà répondu.
Mais on vous reposera la question. Parce qu'à chaque fois, dans votre famille politique,
y compris dans un excellent livre dont je vous rappelle le titre, Contre-pouvoir, c'est la présidence du Sénat, si mes collègues me font encore confiance pour 3 ans.
Mais nous, on a...
Voilà.
Les journalistes peuvent entendre votre réponse, mais autour de vous, dans la vie politique à droite, écoutez, certains disent on ne le croit
le
pas, il se prépare quand même.
Voilà. Ce qui sort, comme dirait l'autre, de la bouche du cheval, en l'occurrence le cheval, c'est Gérard Larcher, et il vous dit qu'il n'entend pas être candidat à l'élection présidentielle.
Vous pourriez soutenir une personnalité qui soit de droite, mais qui, ayant quitté le parti, comme par exemple Xavier Bertrand, Valérie Pécresse.
Mais ce qui m'importe, c'est mon pays. Et je reviens.
Oui, ça, on sait.
Ce qui m'importe, mais non, c'est mon pays.
Il y a quand même des décisions.
Et mon pays, c'est plus important que mon parti. Et pourtant, je suis resté dans mon parti à un moment difficile. Et au contraire, j'ai tenté d'éviter le pire après le mois de juin. Parce que je pense qu'il faut des formations politiques, que c'est indispensable à la démocratie. Et que c'est indispensable demain pour offrir un vrai choix aux Françaises et aux Français.
Alors, Monsieur le Président du Sénat, que pensez-vous de cette décision de justice qui a suscité beaucoup d'émoi sur le meurtre de Sarah Halimi, où la justice a constaté l'irresponsabilité pénale du meurtrier parce qu'il était sous l'emprise du cannabis ?
Moi, j'ai partagé l'émotion qui s'est exprimée dans le pays. C'est un assassinat clairement antisémite qui n'aurait aucune suite judiciaire. J'ai reçu les avocats de la partie civile. On ne peut pas accepter la montée de l'antisémitisme et se pose la question de l'irresponsabilité. Cette semaine, deux collègues, ouais, Jean-Marie Bockel, Roger Karoutchi, ont interpellé le gouvernement au Sénat. Je dois dire que cette question, elle est posée aux législateurs. La responsabilité, c'est une question qui est posée aux législateurs. Je ne méconnais pas la séparation des pouvoirs, mais je suis préoccupé par cette montée de l'antisémitisme. J'ai envie que l'ensemble de mes compatriotes, quelle que soit leur origine, leur religion, leur couleur de peau et le sentiment d'appartenir à la même communauté nationale. Et l'antisémitisme, pour moi, c'est intolérable. Comme le racisme. Voilà pourquoi j'ai des frontières hermétiques sur un certain nombre de sujets. Et pour moi, c'est strictement intolérable. Je me battrai pour ne jamais accepter la moindre faiblesse, la moindre condescendance ou simplement des paroles. Voilà pourquoi j'ai souhaité recevoir les avocats de la partie civile.
Alors, on entend bien, effectivement, d'après ce que vous dites, on comprend que cette nouvelle décennie du siècle qui commence, ces années 20... de ce 21e siècle, commence avec beaucoup d'inquiétudes. On le voit avec la situation en Iran, on voit avec le Sahel. L'esprit du 12 janvier 2020 pour Gérard Larcher, quel est-il ?
C'est l'esprit d'un monde dans lequel le multilatéralisme s'est effacé et dans lequel le seul continent, et j'allais dire la seule organisation qui porte encore ces valeurs du multilatéralisme, c'est l'Union européenne, avec toutes ses faiblesses. Avec toutes ses faiblesses, mais en même temps, elle n'a pas, l'Union européenne, décidé d'abdiquer de ses valeurs. Voilà pourquoi, autour de ces valeurs, nous devons être capables de donner au projet européen, pas simplement la force économique, mais la force d'apporter des réponses au monde. Qui aujourd'hui est présent en Afrique pour combattre le djihadisme, le radicalisme islamique, si ce n'est la France, qui porte ses valeurs.
Et là-dessus, qui doit rester au Sahel.
Qui doit rester. Qui d'autre peut aujourd'hui être prêt à remplacer Sahel ? Regardez, vous parliez du Dakar tout à l'heure. On est incapable d'aller aujourd'hui de Paris à Dakar dans un rallye automobile parce que tout simplement est née une forme d'insécurité, mais bien plus que cela, de rejet mutuel, alors que c'était l'occasion d'un trait d'union. Nous avons besoin de renouer avec des traits d'union. On en est à aller faire Dakar en Arabie Saoudite. Quand on sait aussi les débats entre sunnites et chiites, j'ai envie d'un monde qui retrouve tout simplement le sens d'un minimum de dialogue. Et ce monde-là, c'est pas un monde de naïveté. Je pense que les valeurs de la démocratie ne sont pas des valeurs dépassées. Voilà pourquoi je ne me satisferai jamais de démocratie. Voilà pourquoi aussi nous devons renouer avec des grands pays du continent européen, avec la Fédération de Russie, qui n'est sans doute pas le modèle de base, comme j'imagine, la démocratie, mais nous devons parler avec l'ensemble de l'Europe.
Ce que prône le président Macron, d'ailleurs.
Oui,
France Média.
Bien sûr, mais nous sommes parfaitement
ça vous convient
sur la même ligne. D'ailleurs, j'ai prévu, au cours de cette année, d'aller à Moscou, parce que nous avons des relations, y compris quand les choses sont difficiles. dans notre commission des affaires étrangères, avec la commission du Conseil de la Fédération, parce que le Sénat, c'est un lieu de dialogue, y compris avec le Parlement iranien. J'ai écrit il y a quelques temps au président du Parlement iranien pour lui demander la libération de cette chercheuse française à double nationalité, parce que je pense que c'est mon rôle de rappeler les valeurs.
Les accusations ont été levées récemment. Mais d'une manière plus générale, les engrenages que vous décrivez sont extrêmement lourds. La position de la France, qui se veut toujours médiatrice, entre les deux parties, préservant l'équilibre, c'est efficace?
En tous les cas, elle n'est pas que médiatrice. Elle donne les meilleurs de ses fils. N'oublions pas les 13 soldats tombés au Mali au mois de décembre. Et au Sénat, ça nous a particulièrement touchés et humainement touchés. Mes collègues sénateurs le savent bien. Mais la France pense que c'est du dialogue. Et simplement du dialogue que peut naître la paix. Vous savez, il n'y a jamais de solution militaire sans une solution à un moment de dialogue. Les militaires créent les conditions d'un dialogue qui permet d'aller vers l'apaisement.
C'était le grand rendez-vous de Gérard Larcher. Vous pouvez suivre cette émission en podcast. Merci. À dimanche.